Chapitre 44. Une bourrasque cinglante souffla l'espoir de Solman comme la flamme d'une bougie. Glenn, qui avait déniché des jumelles dans la boîte à gants de la cabine du camion, les lui avait aussitôt apportées, rechignant à les pointer lui-même sur la silhouette sombre qui avançait au milieu de la horde de chiens. Ce troupeau et son mystérieux berger effrayaient le garçon bien davantage que les rats du labyrinthe souterrain. D'eux se dégageait quelque chose de démoniaque, une détermination froide, calculée, qui se lisait dans leur allure tranquille, dans la cohérence de leurs mouvements, dans le flamboiement de leurs yeux. Ce n'était pas Khadija qui se tenait au milieu des chiens, comme Solman l'avait espéré dans un premier temps. Les points communs entre la silhouette et la jeune femme, chevelure charbonneuse, peau d'une blancheur de neige, démarche aérienne, l'avait entretenu pendant quelques instants dans l'illusion. Mais il avait pris conscience de son erreur lorsqu'il avait capturé l'ange dans les cercles grossissants des jumelles. Un ange identique à celui qu'il avait aperçu dans le cimetière d'épaves du bas de la ville fortifiée. Même aspect androgyne, même vêtements informes et drapés qui tenaient lieu à la fois de veste, de robe et de pantalon. N'était-ce la couleur de l'étoffe, d'un brun sombre qui tirait sur le noir? On aurait pu penser qu'il avait suivi une autre piste, avec ses centaines de chiens, pour attendre les aquariotes à la sortie du labyrinthe souterrain, comme un chasseur 10 fois plus perspicace et rapide que son gibier. Les animaux ne se pressaient pas. Contrairement aux hordes sauvages ordinaires qui, stimulés par leurs instincts, perdaient tout contrôle à l'entame de la curée. Solman baissa les jumelles.
« On fait comme t'as dit, » murmura-t-il.
« On roule sans s'arrêter, on fonce dans le tas. » Les chauffeurs regroupés derrière eux piétinaient dans la neige et trituraient nerveusement leurs armes dans l'attente d'un signe, d'un ordre. Moram eut une moue dubitative.
« Je ne sais pas si c'est une bonne idée, finalement. Ils sont moins nombreux que les rats, mais c'est pas tout à fait le même genre de bestiole. Ils courent vite, ils sont puissants, résistants. Sûrement capables de sauter sur les capots et de défoncer les pare-brises. Sans compter que 2 camions ont déjà perdu les leurs.
Tu proposes une autre solution ?» Le chauffeur retira son bonnet et, du plat de la main, frotta un crâne qu'il n'avait pas rasé depuis plusieurs jours et qui, comme ses joues, se couvrait d'un gazon ras et rêche.
« Il ne nous reste plus beaucoup de munitions. Et quand bien même, je ne suis pas persuadé que les balles arrêteraient ces putains de clébards. »
Il fallait prendre une décision, pourtant. Déployée sur toute la largeur du plateau, la meute avançait avec la force implacable d'une vague sombre.
« Et puis, les idées, c'est ton rayon !» ajouta Moram en lançant un regard de biais au donneur.
Solman s'abstint de lui avouer que son esprit était vide, neutre. De la même façon qu'il n'avait pas ressenti la douleur au ventre qui le prévenait habituellement du danger, cette tentative de recourir à la vision demeurait infructueuse. Comme si le problème posé par l'ange et sa terrible légion outrepassait le seuil de sa compétence. Comme s'il n'y avait aucune solution dans le désert blanc qui miroitait sous les ors du soleil. La condamnation de la galerie et la herse de relief dressée de chaque côté du tertre interdisaient toute marche arrière. De toute façon, jamais les aquariotes n'auraient accepté de retourner dans le cauchemar du labyrinthe souterrain. Il ne leur restait plus qu'à démarrer les camions et prendre un maximum de vitesse avant que la horde ait comblé l'intervalle. Rouler à fond sur cette neige au risque de déraper, de perdre tout contrôle sur les véhicules. Au risque, comme l'avait souligné Moram, de voir les molosses sauter sur les capots, pulvériser les pare-brises et sauter à la gorge des conducteurs. Des chiens sauvages communs n'en auraient pas eu l'audace, mais on ne connaissait pas la puissance, la férocité et l'agilité de ceux-là, et leur attaque du campement aquariote dans les plaines du Nord tendait à prouver qu'ils ne craignaient pas grand monde ni grand-chose sur cette terre. « Donne le signal du départ, Moram, » dit Solman. Il se sentait étrangement calme, incapable de s'imprégner de la réalité de cette scène. Il n'y aurait pas eu les autres, les derniers hommes? Il se serait couché dans la neige et aurait attendu la mort avec sérénité, voire avec soulagement. Il ne serait pas fâché de quitter ce corps contrefait, d'offrir son esprit au vent, d'être dispersé dans les vides de cet univers à la fois si intime et si froid.
« Si tu penses qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, » lâcha Moram avec résignation. « Nous roulerons de front sur toute la largeur du plateau. Vague contre vague, la plus résistante l'emportera. »
Moram transmit les consignes aux autres chauffeurs, se hissa dans la cabine et actionna la sirène pour enjoindre aux aquariotes de remonter dans les voitures. Solman et Glenn prirent place sur la banquette passager après qu'il eut démarré le moteur.
« Va falloir s'accrocher !» cria Moram. « Ça risque de chahuter pas mal sur cette foutue patinoire !»«
Pense à Aura !» fit Solman avec un sourire. « J'ai cru la voir s'installer dans la voiture accrochée à ton camion. »«
Je sais, c'est même moi qui le lui ai suggéré. »
Solman se demanda où était passé Wolf. L'occasion ne se présenterait peut-être plus jamais de mettre un terme à leur discussion, de dissiper les dernières zones d'ombre. Et il en concevait des regrets. Le chauffeur desserra le frein à main en secouant la tête d'un air abattu.
« La vie est mal faite, bordel. J'ai eu toutes les autres femmes sans les vouloir. Je veux Aura. » Et je ne pourrai sans doute jamais la voir.
T'es devenu bien pessimiste, d'un seul coup.
Dans un grondement assourdissant, dans un miroitement de métal et de verre, les 30 véhicules aquariotes vinrent s'aligner de chaque côté du camion de tête.
Devenu pessimiste, moi? T'es pas si futé pour un clairvoyant, grogna Moram. Pessimiste? Je l'ai été depuis que j'ai ouvert les yeux sur ce putain de monde. »
Il donna 5 coups de sirène, embraya, accéléra et s'assura d'un regard machinal que les autres camions suivaient le mouvement. Les chauffeurs roulaient très près les uns des autres, parfois à moins de 2 mètres de distance, à la même allure, animés par la volonté de ne former qu'une seule et grande lame d'acier, un soc compact qui creuserait un sillon dans la horde, qui ouvrirait un passage vers la survie, vers l'avenir. Il soulevait des gerbes de neige dont l'écume giflait les pare-chocs, les ailes, les capots et les vitres. Les chiens se mirent à galoper, à bondir, comme pour accorder leur propre vitesse à celle des camions. Ils cessaient d'être des soldats disciplinés et sûrs de leur force. Ils libéraient leurs instincts. Ils tendaient leur énergie et leurs muscles vers un seul but, débusquer les êtres vivants terrés dans leurs cavernes d'acier rugissantes, les déchiqueter, les dévorer.
« Putain de Dieu !» souffla Moram. « L'ange court aussi vite qu'eux. »
Courir n'était probablement pas le terme le mieux approprié pour décrire l'allure de l'ange qui, effectivement, avançait au milieu des formes bondissantes sans marquer le moindre signe de fléchissement. Cheveux flottant autour de son visage comme une auréole de flammes noires, il semblait poussé par le vent ou par le souffle de la meute, quelques centimètres au-dessus de la neige.
« Y a de la magie là-dessous, »
dit Moram d'une voix blanche. Solman ne répondit pas. Mais il n'était pas aussi certain que le chauffeur d'assister à un phénomène magique. On ne connaissait pratiquement rien de l'univers, des lois qui le gouvernaient. L'ange était peut-être, comme Khadija, le produit d'une évolution différente, le représentant d'un règne nouveau destiné à succéder à celui des hommes. Glenn essaya de dissiper le froid de sa peur en se blottissant dans la chaleur du corps de son grand frère. L'aiguille du compteur indiquait 60 km à l'heure et déjà des vibrations secouaient la cabine. Lourds, perchés sur leurs roues comme des échassiers, les camions aquariotes n'étaient pas conçus pour la vitesse, surtout sur un sol aussi incertain, aussi glissant que l'était le plateau enneigé. Leurs chevaux leur servaient principalement à tracter citernes, voitures et remorques sur tous les types de terrains. tant sur les pistes tortueuses des massifs montagneux que sur les immenses étendues d'herbe de l'Europe du centre ou dans les bourbiers de l'Europe du nord à la saison des pluies. Le visage perlé de gouttes de sueur, Moram restait concentré sur la conduite, évitant de fixer la meute lancée à toute allure. Étant donné les faibles intervalles entre les camions, le moindre dérapage aurait eu des conséquences dramatiques. Il s'efforçait également de ne pas penser à ce qui se passerait quand les chiens se jetteraient sur les capots et pousseraient les chauffeurs à commettre des écarts. L'idée de Solman, rouler de front, n'était sans doute pas si bonne que ça, mais la formation habituelle en colonne aurait présenté d'autres inconvénients. Entre autres, la possibilité pour les molosses de couper la caravane en de multiples tronçons et d'isoler les camions.
« On va bientôt cogner !»
glapit Moram. Soudain, alors qu'une distance de 200 mètres séparait les deux fronts, les chiens s'arrêtèrent et se couchèrent dans la neige. L'ange resta debout, immobile, le visage tourné vers la droite du plateau, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un.
« Hé, on dirait que ces satanés clèpes sont la trouille !»
Moram avait inconsciemment relâché l'accélérateur, et les autres chauffeurs également, puisqu'aucun camion n'avait dépassé le sien. Solman repoussa Glenn, s'empara des jumelles et les braqua dans la direction du regard de l'ange. Les cercles grossissants errèrent un petit moment sur la neige avant de capturer une silhouette qui dévalait la pente de l'un des monts bordant le plateau.
« Freine !» cria Solman. « Pourquoi ? Qu'est-ce que... Freine ! Je te dis !»
La voix tranchante du donneur dispersa les réticences de Moram. Tout en donnant de petits coups sur la pédale de frein, il rétrograda et pressa à 3 reprises le poussoir de la sirène. Le brusque louvoiement du véhicule placé à sa droite lui confirma que ses collègues réagissaient au signal de détresse. Les ailes des deux camions se touchèrent, mais le fracas de tôle froissée, s'il provoqua une pluie d'étincelles et arracha à Glenn un cri de terreur, n'affola ni Moram ni l'autre chauffeur. Ils s'éloignèrent l'un de l'autre de façon progressive, corrigeant avec délicatesse la dérive engendrée par le frottement. Les roues des remorques et des voitures qui les avaient dépassées soulevaient d'immenses gerbes de neige illuminées par le soleil. Elles se pulvérisaient sur les pare-brises et rendaient la visibilité quasi nulle. Moram avait l'impression d'avancer dans une brume scintillante au milieu d'autres masses sombres lancées à l'aveuglette et incapables de maîtriser leur glissade. Le camion s'immobilisa enfin, dans un hurlement de frein torturé. Moram coupa le moteur, resta prostré un petit moment sur le volant, se redressa et constata que l'ensemble du convoi s'était arrêté sans autre dommage qu'un peu de tôle cabossée et de courts dérapages qui avaient imprimé un mouvement circulaire à certains véhicules et à leurs attelages. Les roues avaient creusé des sillages profonds dans la neige. Le vent avait dissipé l'écume blanche, le silence était retombé sur les environs. Il tressaillit lorsqu'il aperçut les chiens allongés à 20 mètres à peine de son pare-choc. Il tira machinalement l'un de ses revolvers et vérifia le barillet.
« J'espère que tu sais ce que tu fais, donneur. »
Solman ne l'écoutait pas. À l'aide des jumelles, il suivait la progression de la silhouette qui se dirigeait vers l'ange, toujours debout au milieu de la horde.
« Il sait toujours ce qu'il fait, »
protesta Glenn, qui ne supportait pas qu'on mette en doute les capacités de son grand frère.
« C'est beau l'optimisme, » soupira Moram.
Glenn s'abstint de répliquer. Il ne savait pas ce qu'était l'optimisme. Pas plus qu'il n'avait compris le sens du mot « pessimisme ». Et puis, son cœur battait tellement fort que le martèlement emplissait tout son corps et que les mots peinaient à sortir de sa bouche. Bien que terrorisé, il ne parvenait pas à détacher son regard de l'ange et de ses chiens.
« Qu'est-ce qu'on fout, maintenant ?» grogna Moram. L'autre salopard va envoyer ses chiens nous bouffer les... »
Il s'interrompit, se rendant compte que Glenn n'était pas encore en âge d'entendre le langage des chauffeurs. La place d'un enfant, d'ailleurs, n'était pas dans la cabine, mais à l'arrière, dans une voiture. Les chauffeurs C'était une de leurs règles tacites, détestaient que les autres aquariotes, petits ou grands, viennent s'immiscer dans leur univers. Eux ne se mêlaient pas des rabdes des sourciers, ni des ouvrages des tisserands, ou des activités des autres membres du peuple de l'eau. Ils souhaitaient en retour qu'on les laisse s'organiser entre eux, avec leur kawa, leur manière fruste et leur langage ordurier. Alors,
on attend que Khadija ait parlé à l'ange, répondit Solman d'une voix absente.
Khadija ! La surprise creusa les rides de Moram, transforma son visage rond en un masque d'écorce. Il distingua, sur la surface miroitante du plateau, une forme sombre, floue, qui semblait être une femme en mouvement. Il brûlait d'envie à présent d'arracher les jumelles des mains de Solman, mais le respect qu'il vouait au donneur, le même respect affectueux qu'un enfant éprouvait pour ses parents, du moins le supposait-il, il n'avait pas connu ses parents, l'en dissuada. Il rongea son frein en vérifiant le barillet de l'autre revolver, puis en comptant les balles en vrac dans les poches de sa veste.
« Je descends, » dit Solman. « Vous, vous ne bougez pas. »«
Hein ? T'es malade ! » rugit Moram. « C'est pas parce que ces clébards se sont... »
Solman ouvrit la portière. Une rafale d'air froid s'engouffra dans la cabine.
« La fille n'a sûrement pas besoin de toi pour régler le problème avec cet enc... avec l'ange !»
insista le chauffeur.
« C'est notre avenir qui est en jeu, »
rétorqua Solman, debout sur le marchepied. « Il faut que les hommes soient représentés. Je suis votre donneur. C'est donc à moi d'y aller. »
Moram hocha la tête, conscient que toute tentative d'infléchir la détermination de Solman serait inutile. Et puis, il pressentait que le donneur avait raison. Les derniers hommes étaient depuis trop longtemps absents des cercles où se jouait leur destinée. Il était temps pour eux de prendre le taureau par les cornes, de manifester haut et clair leur présence, leur légitimité, leur désir. Le chauffeur ne put s'empêcher de frémir lorsque Solman s'avança vers la horde. Puis, il commença à se détendre en constatant que les chiens ne bougeaient pas. Le courage, l'inconscience, du boiteux l'emplit d'admiration. Lui, il aurait probablement fait dans son froc, s'il lui avait fallu traverser seul une meute de fauves dont chacun pesait à vue 100 kilos et dont les crocs, reposant sur les babines plissées, mesuraient entre 7 et 15 centimètres de longueur. Solman marchait sans hâte. Et sa fragilité, son boitillement, donnaient encore plus de relief à sa témérité. Les yeux de Moram s'emplirent de larmes. Il prit conscience qu'il avait bien davantage que du respect pour le donneur de son peuple. Il ressentait... Oui, il pouvait le reconnaître, sans rougir. De l'amour. Un amour différent de celui qui le poussait vers Aura. Un amour qui n'avait pas de visage, pas d'enjeu. Un amour qui se suffisait à lui-même. Comme il suffisait au soleil, là-haut, de paraître pour réchauffer la terre. Une prémonition lui souffla que Solman, telle une étoile filante, éblouirait les ténèbres de ses feux avant de disparaître, happé trop tôt par la grande roue du temps. Peut-être pleurait-il pour évacuer un peu de cette tristesse qui le submergerait, lorsque le boiteux s'en irait, après avoir tout légué à ses frères, enfin léger, enfin libre. Il fixa Glenn d'un regard en coin et distingua dans ses yeux une vénération semblable à celle que lui-même éprouvait. Alors il tendit le bras et, d'un geste tendre, ébouriffa les cheveux du garçon dont quelques secondes plus tôt il avait tant exécré la présence.